La revue de presse internationale.
Fini de rire avec vous, Thomas Cluzel. Ce matin, la guerre est partout.
Oui, quand The Wall Street Journal titre ce matin « La Russie lance des frappes en Syrie », The Time prévient à son tour « La guerre aérienne russe a commencé ». Au total, l'aviation russe a effectué pas moins de 20 sorties hier, selon le quotidien Moskovsky Komsomolets, cité par le Courrier international. Parmi les cibles visées se trouvaient des dépôts de munitions, des réserves de carburant, mais aussi du matériel militaire et un centre de commandement de l'organisation terroriste État islamique. La télévision syrienne a elle aussi affirmé que c'était bien des repères terroristes de l'EI qui avaient été pilonnés. Sauf que plusieurs sources ont aussitôt mis en doute cette version, précise notamment The New York Times. Les Russes ont certes frappé des cibles en Syrie, dit-il, mais pas dans les zones contrôlées par Daesh. Les avions russes ont tué au moins 36 civils et visé des zones dont l'EI et le front al-Nusra sont absents, a notamment déclaré le chef de la coalition nationale syrienne basée en Turquie. Des habitants et des insurgés sur place ont également assuré que les zones de la province d'Homs bombardées par les Russes étaient contrôlées par différents groupes rebelles, dont plusieurs opèrent sous la bannière de l'armée syrienne libre. En revanche, aucune des sources interrogées n'a cité Daesh parmi les organisations présentes dans la région visée. Enfin, si la Maison-Blanche estimait hier soir qu'il était encore trop tôt pour savoir quelle cible avait été visée par Moscou, le ministre français de la Défense a lui déclaré que les forces russes n'avaient pas frappé l'EI, laissant entendre que des positions de l'opposition modérée à Bachar al-Assad avaient été visées.
Quoi qu'il en soit, Thomas, il n'en fallait pas plus pour nourrir à nouveau les commentaires sur le jeu dangereux de Vladimir Poutine en Syrie.
Oui, méfions-nous des véritables intentions de Poutine. La politique syrienne du Kremlin poursuit des objectifs qui ne sont majoritairement pas dans l'intérêt des États-Unis et de l'UE, mais notamment en garde The Financial Times. Moscou cherche, dit-il, à détourner l'attention de l'opinion publique mondiale du conflit ukrainien qui lui a valu d'être mis au banc de la communauté internationale, mais aussi à faire diversion aux préoccupations des Russes face à la contraction de l'économie nationale durement mise à mal par les sanctions occidentales. En d'autres termes, Poutine s'évertue ici à montrer que la Russie est une puissance mondiale que l'on ne peut ni ignorer ni isoler. Même analyse pour son confrère slovaque Denik, cité par Eurotopics. La fin de la guerre et la fin de la domination de la Syrie par Assad ne sont pas les priorités de Moscou. Poutine cherche avant tout à retrouver une position lui permettant d'avoir son mot à dire dans les affaires mondiales et à agir à sa guise impunément. Ce qui n'est pas sans susciter d'ailleurs une certaine inquiétude de la part du quotidien populaire russe, Moskovsky Komsomolets. En prenant part à la guerre civile syrienne en tant que principal allié du président Assad, nous mettons en jeu notre réputation et notre propre sécurité, écrit l'éditorialiste, car nous entrons dès lors dans un conflit qui représente une menace globale avec la possibilité à terme de frappe de rétorsion de Daesh sur le territoire même de la Russie. Le journal également de s'interroger si l'Amérique bombarde depuis longtemps les positions de Daesh sans succès, alors pourquoi cela devrait-il réussir à la Russie? C'est la première fois depuis 36 ans que le pays intervient aussi loin de son territoire. À l'époque, c'était en 1979. Il s'agissait alors pour les troupes soviétiques d'envahir l'Afghanistan.
Et l'Afghanistan, justement, il en est également en question depuis que les forces afghanes ont repris tôt ce matin la grande ville de Kunduz aux rebelles talibans après une occupation longue de 3 jours qui aura surtout mis en lumière, Thomas, les graves défaillances de cette armée désormais seule face aux insurgés islamistes.
Oui, cette étape, pour significatif qu'elle soit, loin de marquer une victoire sur le long terme de Kaboul contre les talibans. Tout d'abord parce que face à la débâcle, en réalité, des troupes afghanes, des soldats allemands, américains et britanniques des forces spéciales ont dû être envoyés à Kunduz. L'armée américaine a également procédé à plusieurs frappes aériennes, un appui crucial. Et puis, parce qu'en s'emparant même temporairement de cette ville stratégique, c'est la première fois depuis la chute de leur régime en 2001, après l'intervention américaine, que les talibans infligeaient un tel camouflet au régime de Kaboul, précise le Temps de Genève. De quoi soulever donc de lourdes interrogations sur le résultat de 13 années de présence étrangère en Afghanistan. Selon certains critiques, la situation sur le sol commencerait même à se rapprocher du cas irakien, où le retrait des troupes mis en œuvre par Obama a créé un vide sécuritaire qui a permis à l'État islamique de s'implanter, renchérit le site de Foreign Policy. Une situation d'autant plus préoccupante, dit-il, que des militants extrémistes liés à l'État islamique sont désormais actifs en Afghanistan. Or, c'est également parce que les États-Unis ont en partie échoué en Afghanistan et parce qu'Obama n'a pas réussi à pacifier la Syrie, notamment en refusant d'armer l'opposition, que Vladimir Poutine peut se poser aujourd'hui en sauveur de Bachar el-Assad. Alors, entre escalade du conflit en Syrie et nouvelle violence en Afghanistan, par ces temps de guerre généralisée, difficile aujourd'hui de se dire très optimiste sur la situation internationale. international, mais faut-il y voir pour autant une guerre mondiale, interroge le magazine Slate. Depuis quelque temps, l'hypothèse d'une nouvelle guerre mondiale est en effet régulièrement avancée par des politologues et des commentateurs de tous bords. Alors vrai ou faux, une chose est sûre, cette hypothèse résonne en tout cas étrangement avec la déclaration en début de semaine d'un certain Barack Obama affirmant que les États-Unis avaient toujours lutté pour éviter une troisième guerre mondiale.